Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans la publication e-débat numéro 9, celle de juin 2025. On va explorer ensemble quelques facettes clés du Maroc d'aujourd'hui, telles qu'analysées dans ces textes. Au programme, trois grands thèmes. La relation Maroc-MRE, donc les Marocains résidant à l'étranger. Ensuite, les défis, mais aussi les ambitions de l'entrepreneuriat ici au Maroc. Et enfin, un coup de projecteur sur le dynamisme, assez remarquable, il faut dire, du tourisme. Notre but, dégager l'essentiel, comprendre un peu mieux les enjeux soulevés. Alors, on commence, si vous voulez bien, par les MRE. C'est un sujet central. Les articles d'e-débat pointent un paradoxe assez net. D'un côté, on a un apport financier considérable, on parle de 120 milliards de dirhams par an, et puis des compétences humaines qui sont de plus en plus stratégiques, une nouvelle démographie MRE, aussi, et de l'autre côté, une politique publique qui semble parfois un peu limitée à l'opération d'accueil l'été Maraba. Les sources rappellent d'ailleurs les discours royaux août 2022-novembre 2024 qui appelaient à une refonte des structures comme le CCME et puis la création de cette fameuse fondation Moi Média pour mieux mobiliser les compétences.
Exactement. Et ce qui est assez frappant, c'est ce sentiment d'un décalage. Un décalage qui persiste entre une feuille de route royale, qui semble, elle, assez claire, et puis son application sur le terrain. La grande nouveauté attendue avec la Fondation Moi Média, d'après les analyses qu'on lit, c'est de dépasser le simple accueil. C'est d'aller vers ce qu'ils appellent le post-accueil. Ça veut dire quoi ? Une prise en charge plus globale, économique, administrative. Et surtout, cette mobilisation active des talents. On parle des médecins, des ingénieurs, des chercheurs, des investisseurs. C'est un potentiel vraiment énorme.
Oui, ce potentiel est clair. Mais alors, si la vision est là, comment e-débat explique cette lenteur perçue dans la mise en œuvre? Est-ce que le fait que ce dossier soit vu comme une prérogative royale, ça joue un rôle?
C'est une interprétation que les textes suggèrent, oui. Cette perception que la gestion de ce dossier très stratégique relève avant tout du champ d'action royal. Ça pourrait en effet peut-être induire une certaine, disons, inertie au niveau gouvernemental. Sans l'affirmer de manière catégorique, les articles pointent ça comme un facteur possible. Ça soulève indirectement une question importante sur la fluidité de la gouvernance de ces grands chantiers au Maroc.
C'est intéressant comme point. Et cette idée de mobiliser des compétences externes, ça fait un peu écho à un autre défi abordé dans les textes. Celui de l'entrepreneuriat, mais cette fois-ci au niveau local, au Maroc même. Le constat qui est rapporté, c'est que beaucoup de jeunes diplômés marocains, ils visent encore la fonction publique, ou alors le salariat, la sécurité avant tout. L'aventure entrepreneuriale, elle semble moins attirante.
Oui, c'est un point critique qui est soulevé tout à fait. Les articles insistent sur des freins, notamment culturels. Des freins importants. Il y a une certaine aversion au risque, c'est vrai. Le poids des stéréotypes aussi. Le risque de l'entrepreneuriat face à la sécurité du salariat. Et puis, un déficit peut-être de culture entrepreneuriale transmise dans la famille ou même à l'école.
Alors justement, quelles sont les pistes qui sont évoquées pour essayer de changer cette mentalité ? Parce que ça, c'est pas simple, bousculer des représentations culturelles.
Les sources proposent en gros une approche sur deux fronts. D'abord, le rôle des parents. Il s'agirait de démystifier l'entrepreneuriat, montrer qu'il y a des aides, des accompagnements, que ce n'est pas juste sauter dans le vide, et surtout valoriser la prise d'initiative, l'audace, dès le plus jeune âge. Ensuite, l'école. Là, l'idée n'est pas forcément de créer une nouvelle matière entrepreneuriat, mais plutôt d'infuser cette culture un peu partout. Par exemple, gérer un petit budget en maths, étudier des parcours d'entrepreneurs en français, monter des mini-entreprises, des projets concrets, faire intervenir des professionnels aussi. En fait, apprendre à oser, à gérer l'échec aussi, ça fait partie de l'apprentissage, c'est ça le changement culturel qui est visé. L'idée, c'est vraiment de normaliser l'entrepreneuriat comme un choix de carrière viable et même valorisant.
D'accord, donc un travail de fond sur les mentalités, c'est clair. Bon, passons à un secteur où là, les nouvelles sont bien plus positives, le tourisme. Les chiffres cités pour le début 2025 sont quand même assez spectaculaires, non ?
Ah oui, effectivement, les performances sont là. On parle de 5,7 millions d'arrivées. C'est une hausse de 23% par rapport à début 2024. C'est pas rien. Plus de 9 millions de nuitées et 34 milliards de dirhams de recettes touristiques. Et il y a un chiffre aussi qui est marquant, c'est ce ratio d'investissement. Un dirham investi rapporterait 25 dirhams de recettes. C'est un levier économique très puissant.
Et comment ETHEREX explique ce succès? Est-ce que c'est juste une conjoncture favorable ou il y a une stratégie derrière qui paie?
Alors, les articles l'attribuent en grande partie à une vision royale, une vision stratégique pour le secteur, qui est d'ailleurs reconnue par l'ONU Tourisme. L'ambition affichée est claire, intégrer le top 15 mondial des destinations touristiques. Et ça passe par des actions très concrètes, beaucoup de nouvelles lignes aériennes, la promotion de destinations émergentes, pas seulement les classiques. Il y a aussi la rénovation hôtelière, la diversification de l'offre vers le tourisme durable, expérientiel. Et bien sûr, on souligne l'effet d'accélérateur attendu avec les grands événements sportifs, la Cannes 2025 et puis la Coupe du Monde 2030.
Ce qui est intéressant aussi, c'est cette annonce d'un bureau de l'ONU Tourisme à Rabat, spécifiquement pour l'investissement et l'innovation en Afrique. Ça positionne le Maroc différemment sur l'échiquier continental, non?
Tout à fait. C'est perçu comme une vraie reconnaissance du leadership marocain dans ce domaine et une volonté de jouer un rôle moteur pour le tourisme sur tout le continent, en matière d'innovation, d'attraction des investissements. C'est un signe de confiance fort et une plateforme pour l'avenir, clairement.
Bon, si on essaye de résumer un peu ce parcours à travers IDEBA, on a d'un côté ce potentiel immense chez les MRE qui appelle une politique plus dynamique, plus intégrée. De l'autre, un défi culturel majeur pour libérer l'esprit d'entreprise localement, chez les jeunes notamment. Et enfin, un secteur touristique qui, lui, est en plein essor, porté par une vision et des investissements stratégiques. Trois dynamiques fortes pour le Maroc de demain, en somme.
C'est exactement ça. Et tout cela nous laisse peut-être avec une question de fond pour la réflexion. Comment le Maroc peut-il réussir à faire converger ces trois forces autour? L'énergie et les compétences de sa diaspora, cet élan entrepreneurial qu'on cherche à encourager chez les jeunes, et puis cette dynamique touristique qui est déjà bien engagée. Quel changement de perspective collective, peut-être, serait nécessaire pour vraiment tisser des liens plus forts entre ces différents atouts? Pour accélérer la transformation souhaitée du pays. Voilà, matière à penser.